Bonjour tout le monde. Alors c'est marrant que je suis trop content déjà d'être là. Je suis moins stressé que je ne suis content, donc ça va. C'est la joie qui l'emporte ce matin d'être avec vous. C'est marrant que Arnaud parle des petites phrases comme ça qu'on a l'habitude de dire, parce que nous, hier, avec quelques-uns, on rigolait sur les introductions pendant les messages. Et souvent, il y a une petite anecdote avec la femme du prédicateur ou ses enfants. Moi, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai aucune anecdote de ce genre pour commencer la prédication. Mais je voulais, moi, vous partager un truc qui est personnel. Vous le savez, généralement, je suis sur cette petite estrade bleue avec une casserole métallique, le hang, ou avec une guitare. Et j'ai trouvé une image qui m'est passée par la tête, et je pense qu'il est vraiment au service du texte qu'on va prendre ce matin. C'est que cet instrument de musique, il est très très rare à reproduire. C'est un génie, on peut dire, qui a créé cet instrument. Et j'ai eu l'occasion de lui poser la question: pourquoi monsieur, vous n'avez pas transmis votre savoir? Parce que cette personne s'est arrêtée de le fabriquer. Et donc il m'a dit: mais ça ne se transmet pas comme ça, c'est pas en un CAP Hang que je vais transmettre ce savoir. J'aurais dû prendre quelqu'un avec moi à mes côtés depuis le début, parce que moi, marteler le métal, c'est ma vie. Et ça me fait penser un peu à Paul. Ce matin, on arrive au quatrième chapitre, donc de la deuxième épître de Paul à Timothée. Ça fait donc la quatrième semaine qu'on est dessus, et on s'est fait déjà beaucoup de bien par la parole et par tout ce qui nous a été dit. Et ça me fait penser un peu à ce que Paul a... Voilà, ça me fait penser un peu à ce que Paul a fait. Cette épître ici, ce n'est pas juste Paul qui rencontre quelqu'un et qui lui laisse 2-3 recommandations. Paul, Timothée était son compagnon d'œuvre, il l'appelait son fils spirituel, son véritable enfant dans la foi. Et le thème vraiment qui ressortait de cette lettre, c'était vraiment un appel à la fidélité. Et donc Paul est en train de faire ici ce que ce monsieur n'a jamais fait, c'est de donner là ce coup-ci, déjà par sa vie, il lui a transmis un modèle, et là il lui donne les dernières recommandations dans cette deuxième épître. Et on arrive au chapitre 4, qui est donc le dernier écrit de Paul pour Timothée. C'est en quelque sorte le testament, si on peut dire, le testament spirituel d'un père spirituel pour son enfant spirituel. Et on va regarder ensemble comment est partagé ce chapitre. Et je vous propose de lire les 5 premiers versets. Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors c'est 5, on va essayer, vous allez voir, ça va être le challenge de ce matin, je vous promets que vous allez arriver à l'heure pour vos invités ou pour votre repas, mais on va essayer de survoler tout le chapitre. Et donc ici, on voit un dernier, c'est un peu un regard en avant que Paul fait par rapport à Timothée et ce qui va l'attendre. Et donc, il lui laisse un dernier mandat. Et ce dernier mandat, on va le voir un petit peu de plus près. Ce dernier mandat, c'est « prêche la parole ». Alors, dans nos Bibles, vous avez ce numéro 4 qui vient un peu faire une coupure, mais on est pleinement à la suite de 2 Timothée 3,16, où Paul rappelle à Timothée que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et ce numéro 4, il nous induit un peu en erreur, mais on est dans la suite. Donc, Paul dit à Timothée, prêche la parole et rien que la parole, c'est l'essentiel de ce mandat. On peut remarquer par la suite l'urgence dans ce mandat. Paul dit à Timothée, insiste en toute occasion, favorable ou non. Alors, je ne sais pas vous, mais quand on entend ce favorable ou non, on se dit, mais non. On entend souvent et on lit, par exemple, dans les Proverbes ou dans d'autres passages de la Bible où il faut être sage, il faut avoir du discernement et souvent on peut lire avoir une parole à propos. Et donc on se dit, mais comment ça, en toute occasion, favorable ou non? On dirait qu'on doit annoncer à tout le monde, tout le temps, n'importe comment. Et en fait, ce favorable ou non, il est mal interprété souvent. Là, il s'agit de Paul à Timothée qui est prédicateur dans l'église d'Éphèse, et il est en train de lui rappeler que dans l'assemblée, il doit, pas juger si le peuple est prêt à entendre ou pas la parole, il doit la prêcher. C'est pas à lui de savoir si c'est le bon moment ou pas. Et j'ai envie de dire, pour un peu paraphraser ce qu'il lui dit, il lui dit qu'on t'écoute ou pas, Timothée, tu prêches la parole. Et c'est ici ce que veut dire ce favorable ou non. En ce qui nous concerne, nous sommes, nous, invités à avoir vraiment et à prier le Seigneur pour avoir de la sagesse et du discernement pour savoir quand parler du Seigneur. Et en même temps, nous devons garder en tête que la croix, c'est une folie. C'est une folie pour les hommes. Donc, en ce sens, il n'y aurait jamais vraiment de bon moment. Mais Paul s'adresse ici à Timothée, dans l'Église, dans l'Assemblée, prêche la parole, qu'on t'écoute ou pas. Ce mandat est donc urgent et on le voit, Paul commençait il le supplie. Je t'en conjure, vous avez peut-être, je t'en supplie. Il y a une urgence dans ce mandat car il prend à témoin Dieu, Jésus, le retour et le règne de Jésus. Il y a un côté urgent que Paul veut rappeler à Timothée dans la prédication de la parole. L'étendue de ce mandat. Paul n'est pas en train de dire à Timothée, transmets juste une information. Et l'annonce de toute la parole n'est pas seulement une transmission d'informations, ça va bien plus loin. Reprends, censure, exhorte. Et c'est le rôle, on l'a lu plus haut, en 2 Timothée 3,16, c'est le rôle de la parole. Des fois, on a besoin d'être repris. Des fois, on a besoin que nos conceptions qu'on a ou notre vision de Dieu soient corrigées, redressées. Et c'est le rôle de la parole. Et Timothée doit être au service de la parole qui est utile pour nous redresser des fois, pour nous corriger. Et Paul finit en disant, en exhortant. Donc on peut voir la manière d'accomplir ce mandat avec toute douceur et en instruisant. Le souci de Paul, c'est que Timothée, quand il enseigne, il instruise. Et ça vous rappelle peut-être un passage dans la Bible qui nous dit que Dieu, il nous corrige comme un père qui aime ses enfants. Quand la parole, qui est un miroir, un peu reflète ce qu'on a à l'intérieur et qu'on se sent repris, c'est pour notre bien et c'est parce que Dieu nous aime. Paul rappelle donc à Timothée d'avoir une douceur. Il y a des versions de la Bible qui parlent d'une patience inlassable. On est en droit de se demander pourquoi autant insister, pourquoi ce dernier mandat prêche la parole. Eh bien, c'est la suite qui nous le dit, c'est ce verset 3, qui nous dit que viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Alors, Stéphane en parlait déjà la semaine dernière. Il viendra un temps difficile dans les temps de la fin. Nous sommes dans ces temps de la fin. Et le contexte de l'Église, c'est exactement ça. Il y a des personnes qui se prétendent être chrétiennes, mais qui n'ont pas l'air de l'être, car elles ne supportent pas la saine doctrine. Elles préfèrent entendre des choses agréables. Vous savez, qu'on les caresse dans le sens du poil. Elles ne veulent plus entendre les vérités bibliques. Paul lui demande donc de prêcher la parole. Et là, on comprend du coup que le contexte soit favorable ou pas. Timothée, il faut que tu prêches. Parce que les gens, même dans l'Église, ne supporteront pas la saine doctrine. Et je pense pouvoir ouvrir une parenthèse ici et dire que c'est un peu pareil de nos jours. Ça fait que 5 années que je suis au Seigneur, mais j'ai pu remarquer qu'on aime de moins en moins les vérités bibliques, entendre parler du péché, entendre parler de l'enfer. Et je pense même pouvoir dire, et Stéphane le disait, on aime les cultes où la louange est très longue et le temps de prédication pas trop long, pas trop de paroles. On va dans nos vies même se contenter de lire peut-être le pain quotidien ou deux petits versets. Et donc je pense que ça s'applique aussi pour nous, dans l'Église, à nos responsables, à nos prédicateurs. Il faut annoncer la parole de Dieu. parce qu'il y a des personnes qui n'ont plus d'intérêt pour la Bible et qui se détournent. Et donc, il faut utiliser la parole pour corriger ça et pour redresser. On voit par la suite, on va lire donc à partir du verset 5, on va voir les quatre dernières recommandations. Après ce dernier mandat, prêche la parole, Paul va lui donner quatre dernières recommandations. La première, être sobre en tout. Paul, dans ce contexte-là, dit à Timothée, toi, ne t'écarte ni à gauche ni à droite, sois sobre dans ta conduite. Dans sobre, il y a cette notion de modération, cette notion de tempérance et de bonne conduite. Et en contraste avec ces hommes qui se détournent, Timothée doit être sobre dans sa conduite. Et sobre dans tous les domaines. Donc on peut, et je pense pour nous aussi ce matin, se poser des questions. Quels sont donc les domaines où je manquerai de sobriété? Où est-ce que dans quel domaine j'ai besoin d'être vigilant? Sobre dans notre service pour Dieu, dans notre zèle même, dans nos relations, dans nos rapports les uns avec les autres, nos rapports à l'argent, nos rapports à la nourriture. C'est le premier sens du terme sobre, c'est un lien avec la nourriture, mais pas dans ce texte. Au loisir, dans notre gestion du temps, bref, dans tous les domaines. Et ce matin, au travers de ces quatre recommandations, à chaque fois, j'aimerais nous laisser une petite question. Et la question de ce matin, la première, c'est quels sont les domaines dans lesquels je manque de sobriété? Et aussi, par rapport à ce qu'on nous propose, ce qu'on entend et ce qu'on nous fait croire comme vrai, des fois dans les églises, des fausses doctrines, on entend des choses. Dans notre entourage, il faut qu'on sonde les Écritures, qu'on étudie la parole et qu'on soit sobre. Ensuite, Paul dit à Timothée de supporter les souffrances. Il l'avertit qu'elles sont inévitables. Elles font partie du ministère. Et Stéphane l'a rappelé, Paul a voyagé. C'est un compagnon, Timothée était un compagnon de voyage de Paul. Et c'est dans 2 Timothée 3 au verset 10, je vais juste vous le lire, on voit que Timothée, il voit de quoi Paul parle. Et Paul lui disait, « Pour toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions et mes souffrances. » Paul est en train juste de lui rappeler qu'il y aura des souffrances dans le ministère. Est-ce que nous sommes concernés aussi par ces souffrances? Il dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous, personnellement, nous ne nous sentons pas forcément persécutés, mais je pense que quand on mène une vie authentique, une foi réelle de chrétien, quand on répand le parfum, la bonne odeur de Christ dans notre entourage, souvent, on va, et vous devez le voir dans votre quotidien, on ressent que ça, des fois, ça ne passe pas, on rencontre l'opposition. Nous ne sommes pas dans un pays où il y a encore des persécutions physiques, des souffrances physiques, mais des souffrances émotionnelles, morales, quand nos amis nous dénigrent un peu, ou même nous renient de la famille ou des collègues qui rigolent de nous, il y a des souffrances qui accompagnent souvent la vie chrétienne. Si vous ne souffrez pas, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas pieux. Le texte dit que ceux qui veulent vivre pieusement, tôt ou tard, excusez-moi de le rajouter, vivront des souffrances dans un sens ou dans l'autre. On veut souvent, et on le dit, je désire ressembler à Jésus-Christ. Est-ce que, et c'est la deuxième question, est-ce que je suis prêt à vouloir ressembler aussi à Christ dans ses souffrances? Est-ce que je me prépare à vivre des moments des fois difficiles? Paul, ensuite, lui laisse un troisième encouragement. Faire l'œuvre d'un évangéliste. Il lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Alors là, je me suis demandé, est-ce que Timothée est un évangéliste? Timothée n'est pas un évangéliste. Du moins, dans la Bible, il ne nous est pas dit que Timothée était évangéliste. Et on l'a vu, il a plus l'air d'être un berger, un pasteur. Il s'occupe d'affermir des églises et il a eu différentes missions dans lesquelles Paul l'a envoyé. Il a plus l'air, oui, d'être un prédicateur, un berger, voire même, peut-être là, à ce moment, un ancien. Mais il doit faire l'œuvre d'un évangéliste. Alors c'est marrant, on peut faire l'œuvre d'un évangéliste sans être un évangéliste. Et Paul est en train de rappeler donc, et je paraphrase, il lui dit, dans ton ministère, n'oublie pas les âmes perdues. N'oublie pas de proclamer la bonne nouvelle et de penser aux âmes perdues. Et je pense que ce faire l'œuvre d'un évangéliste nous concerne aussi. Alors, individuellement, nous sommes tous appelés à être des témoins. Donc, en quelque sorte, quand l'occasion se présente, pouvoir être prêt, toujours prêt, à répondre de notre foi, et en ce sens-là, à faire l'œuvre d'un évangéliste, à parler du Seigneur. En Église aussi, nous devons faire l'œuvre d'un évangéliste. L'Église entière, avec tous les membres qui la constituent et les différents dons que nous avons, nous devons ensemble faire l'œuvre d'un évangéliste. Bien sûr, il y en a qui ont ce don et cette facilité, mais ensemble, faisons l'œuvre d'un évangéliste et que nos pasteurs, nos dirigeants, les responsables, ceux qui s'occupent des jeunes, des petits, des grands, ne pas oublier dans nos ministères de faire l'œuvre d'un évangéliste. Je crois que ce passage s'adresse aussi à nous, cet encouragement, car nous ne sommes pas apôtres comme Paul, mais comme Timothée, nous pouvons avoir une charge pastorale ou quoi. Et donc, faire l'œuvre d'un évangéliste. La question donc qu'on peut garder ce matin, c'est est-ce que je garde en tête dans mon service, les âmes perdues. Quand je vais voir les enfants à l'école du dimanche, est-ce que je leur raconte une histoire ou est-ce que je pense vraiment que c'est des petits qui ne connaissent pas personnellement le Seigneur ? Paul termine par une recommandation qui englobe toutes les autres. Bien remplir son ministère. Remplis bien ton ministère. Alors, peut-être comme moi, vous vous dites, mais remplir... Il faut donc être à plein temps pour le Seigneur et remplir nos journées du matin jusqu'au soir. Non, Paul n'est pas en train de lui parler de quantité. D'autres versions disent « Assure pleinement ton ministère, remplis complètement ton ministère ». Et c'est ici, il y a juste une notion de consécration, une notion de fidélité. Paul est en train de lui dire « Bref, Timothée, remplis ton ministère avec tout ce que ça comporte. On a vu que ce n'était pas juste parler dans l'église, faire le rôle d'un prédicateur, mais aussi l'œuvre d'un évangéliste. Et des fois reprendre, censurer, exhorter, ne pas oublier les âmes perdues. Il finit avec cette recommandation, remplis ton ministère. Et la question qu'on peut se poser, nous aussi, c'est est-ce qu'on est pleinement et fidèlement consacré à notre service pour Dieu ? Qu'on n'ait que quelques heures par semaine parce qu'on a un travail. Sachez que notre travail est aussi une terre de mission où nous pouvons avoir des occasions de parler. Est-ce que nous avons en tête notre service pour Dieu et est-ce que nous nous y consacrons pleinement ? Donc nous arrivons dans une deuxième partie où Paul, après avoir fait un regard en avant pour Timothée, il fait ici à partir du verset 6... un regard en arrière sur sa propre vie. Et vous savez, il est comme en train de passer le relais, le témoin à Timothée. Et il va lui parler de son exemple. Et je vais lire avec vous donc le verset 6 à 8. « Car pour moi, Paul revient à lui, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors nous allons regarder un peu de plus près le modèle, l'exemple de Paul qu'il est en train de léguer à Timothée. Il lui a donné des recommandations et là il revient à lui pour ma part. Alors j'ai rencontré une première difficulté avec le fait que Paul dit « je sers déjà de libation ». Pour être simple, une libation, c'était un liquide, généralement du vin ou de l'huile, qu'on répandait sur l'offrande, sur l'autel. C'était un sacrifice liquide, une offrande liquide. L'image devient donc très puissante quand on réalise que Paul, vous avez peut-être ce texte aussi en tête dans Romains 12, où il exhorte à offrir notre vie comme un sacrifice vivant. Paul, lui, là, est en train de dire à Timothée, je suis en train, je sers déjà, il est, sa mort est imminente à Paul. Et il dit, je sers de libation, je m'offre pleinement, je vais m'offrir enfin à Christ. Et alors, j'ai lu dans un commentaire quelque chose qui m'a fait pleurer. C'est l'image que donnait ce commentateur. Il disait, vous savez, le bio, c'est cette pièce en bois sur laquelle on tranchait la tête des futurs décapités. Paul allait sûrement être décapité. Il disait que ce bio était pour Paul son autel, l'endroit où il allait offrir lui-même son sang, qu'il allait se faire couper la tête, il allait offrir sa vie, il allait répandre sa vie pour Christ. Néron n'allait pas tuer Paul, c'est Paul qui allait achever, il allait s'offrir à Christ. Il a commencé depuis son appel à offrir sa vie, et là il dit à Timothée, ma mort est proche, je sers déjà de libation, je vais m'offrir à Christ. Nous qui avons donné un jour notre vie à Christ, je nous laisse cette question, est-ce que nous allons continuer, comme Paul, à offrir notre vie jusqu'à la fin de nos jours à Christ comme un sacrifice vivant? En trois petites phrases juxtaposées, Paul va résumer vraiment sa vie. Il nous dit, j'ai combattu le bon combat. Alors s'il parle du bon combat, ce n'est pas qu'il y a, je pense, plusieurs combats, il n'y en a qu'un seul. Et Paul a combattu le bon combat. Quel est ce combat? Quel est le bon combat? Il n'y en a qu'un seul et c'est le combat dans lequel le Seigneur nous a inscrits lorsqu'il nous a sauvés. Et Paul dit à Timothée, c'est le combat de la foi. Le combat de la foi, le combat de la vie chrétienne. Il sera alors légitime de se poser la question, contre quoi combattons-nous? S'il y a un combat, il y a forcément un ennemi. On voit rarement sur un ring une personne seule. Sauf si elle est en train de s'entraîner. Mais si elle est lors d'un combat, elle est pas seule. Et j'aimerais nous rappeler à nous nos trois principaux ennemis. Nous nous battons contre la chair, premièrement, qui sont nos tendances naturelles fâcheuses, notre volonté d'indépendance vis-à-vis de Dieu, quand on n'a pas envie, quand on est tenté, ça vient de notre cœur. On se bat contre la chair, un combat contre le péché dans nos vies. Mais aussi un combat contre le monde. Le monde nous propose des choses, nous attire, il nous séduit, il nous fait croire qu'on serait plus heureux sans Dieu, à profiter de ce qu'il y a. On n'a qu'une vie, il faut profiter. Ce sont des erreurs qu'on nous fait croire. Nous devons lutter, combattre contre le monde et les tentations qui viennent et tout ce qu'on nous propose. Et comme troisième ennemi, Satan. Souvent, nous le surestimons ou au contraire, nous le sous-estimons. La parole nous dit qu'il est comme un lion rugissant et qu'il cherche qui, sur qui sauter, sur qui dévorer. Et j'ai retrouvé ce verset en Éphésiens 6, 12. Ne le cherchez pas, je vous le lis. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul s'est concentré et s'est battu pour le Seigneur. Il a combattu le bon combat. Et il n'a pas fait à l'image de ce boxeur sur le ring qui ne fait pas attention aux flashs, aux pom-pom girls, aux fans adverses qui l'insulteraient ou à ses propres fans qui crient. Il s'est concentré sur sa cible, Jésus-Christ. Et il a combattu ce bon combat. Suis-je sur le bon ring? Une question supplémentaire que je nous laisse le matin, car nous sommes sur un ring. Est-ce qu'on se bat pour une juste cause, le Seigneur, l'Évangile, ou est-ce qu'on bat dans l'air? Paul disait, moi je ne frappe pas dans l'air. Est-ce qu'on, ce après quoi on se bat et ce pourquoi on se bat, c'est du vent ou est-ce que c'est le Seigneur? Paul a combattu le bon combat et il a achevé la course. Il a souvent, Paul, comparé la vie chrétienne avec une course, en reprenant l'image d'un athlète qui s'entraîne. Le seul but de Paul était d'arriver au bout et de gagner. Il arrive en sa fin de vie, il sent son départ imminent. Et il dit à Timothée, moi j'ai achevé la course. Ma vie chrétienne, elle se finit sur terre. J'ai achevé la course. Il y a un verset dans Hébreux, ce n'est pas Paul qui l'a écrit, mais j'aime beaucoup, qui dit « Débarrassons-nous », c'est le chapitre 12, verset 1 pour ceux qui prennent des notes, « Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. » Est-ce que ce matin, on a des fardeaux, des choses sur notre dos qui nous empêchent de courir cette course dans laquelle le Seigneur nous a inscrits et d'aller jusqu'au bout? Et je nous laisse encore une question. Quel est le but de notre vie? Est-ce que c'est Christ? Est-ce qu'on se bat pour des faux combats, aussi nobles qu'ils puissent être? Et après quoi, est-ce que vous, dans votre vie, et moi, je me pose aussi la question, je cours? Paul, après avoir dit à Timothée qu'il avait combattu le bon combat, achevé la course, il lui dit « J'ai gardé la foi ». Alors, ça fait un peu bizarre, « J'ai gardé la foi », car sachez qu'il est impossible de perdre son salut. Et Paul n'est pas en train de dire que j'ai perdu la foi ou je ne l'ai pas perdu, je l'ai gardé dans ce sens-là. Je vous propose ici que Paul est simplement en train de dire qu'il a gardé la flamme qui demande à Timothée de raviver. Il a gardé les vérités, il a gardé la saine doctrine, il a gardé confiance en Dieu. Il est resté fidèle malgré, on va le voir, toutes les souffrances, les déceptions qu'il a eues. Il a gardé la foi dans ce sens, c'est-à-dire il a continuer à jeter ses yeux sur le Seigneur et sur la récompense à venir, et il est resté fidèle. Paul dit par la suite que désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous allons voir un peu de plus près juste cette couronne dont Paul parle. Il a combattu, achevé, gardé la foi. Et tout naturellement, et ça fait un peu bizarre de le voir là, il sait qu'une récompense l'attend dans le ciel. Quelle est la nature de cette couronne de justice? Paul est en train de parler de la récompense, d'une vie approuvée par Dieu. Dieu, qui est le juste juge, va récompenser ceux qui auront été fidèles jusqu'au bout. Il va récompenser notre fidélité. Paul ne s'est pas battu pour avoir une couronne. Paul, il s'est battu pour Christ. Il n'a pas offert sa vie pour cette couronne, il l'a offert pour Christ. Mais naturellement, s'appuyant sur les promesses de Dieu, il sait qu'une couronne l'attend, une récompense. Les évangiles regorgent de passages qui nous disent que nous serons récompensés si nous sommes fidèles et si nous l'aimons. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité de notre service qui compte. Il est intéressant du coup de voir que Paul ne se considère pas comme une exception. Cette couronne n'est pas réservée aux apôtres, aux évangélistes, à ceux qui seront morts en martyrs, ceux qui auront fait des miracles ou des guérisons. Non, Paul le dit lui-même, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous avons ici la qualité que Dieu demande, c'est l'amour, 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 l'amour. Et Paul ne se considère pas, voilà, comme je disais, comme une exception. Il le dit, c'est aussi pour nous tous, si nous aimons son avènement. Qu'est-ce que veut dire aimer l'avènement? Je vous propose ici que aimer l'avènement du Seigneur, c'est l'aimer lui, c'est hâter son retour, c'est travailler pour son royaume et faire sa volonté. Aimer Jésus, ça ne serait pas rester les bras croisés et dire « je l'aime ». Quand on aime quelqu'un, on veut le voir. Et nous voulons voir Jésus revenir. Et nous voulons qu'un maximum de personnes entendent parler de lui. Nous aimons son avènement, nous voulons son retour. Alors nous hâtons son retour en parlant de lui, en étant fidèles et sobres dans notre service, dans notre conduite. Donc une église aussi qui aime l'avènement du Seigneur, c'est une église qui ne perd pas de vue son service, qui ne perd pas de vue de prêcher la parole et seulement la parole. C'est une église qui cherche à agrandir le nombre de personnes qui auront donné leur vie à Jésus. Ils ne cherchent pas à agrandir forcément leur nombre, mais qui cherchent à agrandir la famille de Dieu. C'est une église qui est fidèle et qui représente le Christ sur terre pour poursuivre son œuvre par la puissance de son esprit. Nous pouvons tous avoir cette couronne. J'aime comment Paul a cette assurance que cette couronne lui est réservée. Et la question qu'on peut se poser, c'est si je devais mourir demain ou à la fin de ma vie, est-ce que je pourrais me retourner comme ça et me dire, je sais que la couronne m'attend. Est-ce que je pourrais dire ce que Paul a dit de sa vie? Ensuite, je vais devoir passer assez rapidement sur les prochains versets, mais j'aimerais en dire quelques mots. Nous allons les lire ensemble si vous voulez bien. Donc, toujours 2 Timothée 4, à partir du verset 9, et on ira jusqu'au verset 15. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite, lui, en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Je ne vais pas rester longtemps sur ces quelques versets, mais il y a quelques petites choses à dire. On voit ici la situation de Paul. Il a été abandonné. Certains lui ont fait du mal, comme Luc, ce forgeron. On voit un Paul plein de connaissances, pour utiliser un mot actuel, plein de réseaux. Il envoie des gens à gauche, à droite. Il pense à la suite, déjà, à remplacer Timothée, parce que Timothée va venir le voir. On voit un Paul qui n'est pas un warrior et qui veut finir sa vie seul. Non, il a Luc déjà avec lui, et il demande à Timothée de venir vite et de prendre Marc aussi. Ce Marc avec qui il y avait eu un couac, il le veut à ses côtés pour la fin de sa vie. On voit des petits détails très personnels qui donnent vraiment un côté personnel à cette lettre. Amène-moi le manteau que j'ai laissé chez Carpus. Généralement, on dit ça à nos amis. On voit vraiment l'amitié, l'intimité qu'ils ont. Et il lui demande aussi de lui ramener les livres. Quels sont ces livres ? Je ne pense pas que ce soit le journal L'Équipe. Je pense que Paul est en train de lui demander des notes, peut-être des notes à lui personnelles, ou peut-être même les paroles de notre Seigneur, ou des écrits de l'Ancien Testament. On voit donc cette intimité, cette relation qu'ils avaient tous les deux. Et j'aimerais conclure ce matin de la même façon que Paul a conclu. Et mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire que nous avons tous des dons et tous un service à rendre à Dieu. Que nous soyons mères au foyer, que nous élevions nos enfants, que nous soyons des prédicateurs, des responsables de groupes de jeunes, pères de famille, qu'on s'occupe de tel ou tel service, la qualité et le critère selon lequel nous serons jugés, ce sera notre amour pour Dieu et notre fidélité. Vous savez, dans cette parabole où le maître part en voyage et il confie ses biens, qu'il en ait confié 10 ou 5, il dit aux 2 qui ont fait fructifier, il leur dit, « Bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Le Seigneur nous demande simplement d'être fidèle, et c'est ce que Paul demande à Timothée dans cet épître, « Sois fidèle jusqu'à la fin. » Alors oui, Paul finit, et c'est magnifique, on a vu un regard en avant, un regard en arrière sur sa vie, Paul finit avec un regard sur Jésus. Paul raconte que tout le monde l'a abandonné. Il ne leur en veut pas, que cela ne leur soit pas imputé. Et il rappelle par un énorme contraste au verset 17. Excusez-moi. Je lis à partir du verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas point imputé. Le contraste ici est énorme. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Paul, son souci, lorsqu'il a été arrêté, qu'il a dû comparaître, était d'annoncer la bonne parole. Et il nous dit que donc, et ça s'adresse aussi à nous ce matin, même si on nous abandonne, même si nous devons souffrir, oui, combattons le bon combat, frères et sœurs. Achevons la course, gardons la foi. Mais Paul est en train de rappeler à Timothée que sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire. On le lit dans la, dans l'image avec le cep et les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et j'aimerais conclure avec vous, nous pouvons et nous devons proclamer avec Paul, et c'est ainsi qu'il conclut, au verset 18, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. » Nous pouvons faire toutes ces choses et nous inspirer de cette lettre, mais nous rappeler que ce n'est que par la grâce de Jésus. C'est lui qui nous portera jusqu'à la fin. Soyons bénis et encouragés. Merci.